Extrait de Un monde à portée de main de Maëlys de Kerangal. Paula a appris la technique du trompe-l'œil en peinture. Elle est appelée pour participer à la réalisation du fac-similé de la grotte de Lascaux. Au téléphone, elle raconte à son ami Jonas la découverte de la grotte en 1940. Donc, c'est la fin de l'été et quatre garçons marchent à travers bois. C'est un jeudi, le 12 septembre 1940. Ceux qui marchent ne sont plus des enfants, mais ils cherchent un trésor. Est-ce ainsi que l'enfance insiste ? Paula marque un temps d'arrêt. Elle reprend. L'un d'entre eux est l'aîné, cela se voit, la taille, la carrure, le barda qu'il transporte, dont cette lampe bricolée avec une pompe à graisse, une bonne mèche et du pétrole. Et puis il sait où ils vont, c'est lui qui guide. C'est lui, Marcel Ravida, qui tient ici le rôle principal, c'est lui qui est à la manœuvre. Les trois autres sont plus jeunes, Georges Agniel a 17 ans, Jacques Marsal 14 et Simon Cuencas 13. Des enfants ? Marcel a une idée en tête, retourner au trou qu'il a écouté il y a 4 jours déjà, le 8 septembre. Ce jour-là, il est parti avec d'autres sur la colline, derrière le manoir de Lascaux, à 1 kilomètre au sud de Montignac, quand son chien Robot disparaît dans un creux du terrain envahi de buissons, une excavation d'environ 1 mètre de profondeur, laissée par un grand arbre arraché lors d'une ancienne tempête. Un trou déjà connu. Marcel va chercher son chien et repère la présence d'un autre trou, celui-là plus étroit. Il y lance un caillou, écoute et évalue la profondeur en comptant les secondes avant de percevoir en retour le son que fait la pierre quand elle touche le fond. Et sans doute que l'écho du projectile qui a rebondi, puis roulé sur le cône d'éboulis à l'intérieur, lui a permis de se configurer le sous-sol. C'est creux en dessous, c'est vaste et aéré. Et déjà, il y a de la place, quelque chose, une aventure. Et peut-être que tout ce qui a suivi, tout, c'est une hypothèse qui embrase Paula, se tient dans la réverbération acoustique d'un caillou qui chute dans un puits et vibre sans discontinuer dans l'oreille de Marcel, vibre de manière si entêtante et si belle que 4 jours et 4 nuits plus tard, il est en mouvement, équipé, accompagné. La voix de Paula, elle aussi, réverbère, fait venir des images dans l'oreille de Jonas, fait venir son visage et ses mains qui signent ses paroles. Ils montent, les quatre, la tête penchée en avant, comme si leur front traçait le chemin, avancent à bonne allure, mais sans hâte excessive. On ramassait des bâtons et frappe les feuillages à grands gestes vagues. Se parle à voix basse, il est question de nions et de coups dans les couilles, il est question de crachats et d'insultes, des Alsaciens, des Lorraines, mais du trésor, pas un mot encore. Des adolescents qui grimpent la colline pour voir, donc, comment mise à hauteur de la dernière enchère lors d'un tour de poker pour rester dans le jeu, se tenir à jour des promesses de la vie. Ils atteignent l'endroit où ça commence. Et Paula visualise les 4 paires d'yeux baissés au sol, interrogeant silencieusement le petit gouffre noir trop étroit pour mettre la tête dedans. Crier « Ohé, ohé, il y a quelqu'un ?» Mais assez large en revanche, pour laisser échapper l'odeur de la terre, aussi intime que celle que l'on respire dans les plis d'une peau humaine. Et puis Marcel sort une lame de ressort d'auto dont ils se servent à tour de rôle pour élargir le passage, ce qui va prendre une bonne heure. L'opiniâtreté du plus grand a gagné les autres qui persévèrent, trouvent là l'occasion d'afficher leur force. Puis, une fois le trou amplifié, ils vont faire exactement ce pour quoi ils sont venus. Ils vont descendre. Autrement dit, ils vont y croire. L'invention déjà, est une blessure. Le dehors et le dedans s'ouvrent l'un à l'autre par un trou qui s'échancre, large de 20 cm environ le jour de la découverte. C'est une ouverture de 5 mètres sur 5 un mois plus tard. Et dans ce contact, quelque chose est perdu. Le cône d'éboulis détruit. La cavité perd son bouchon climatique, hydrique, thermique. La stabilité du milieu intérieur de la grotte se modifie. L'exact rapport qui existait entre l'air, l'eau et la roche se détraque. Une continuité de 20 000 ans s'effondre. C'est Marcel qui s'infiltre en premier, tandis que les trois copains écoutent en surface. Ses pieds touchent le sol, il atterrit dans le noir, on lui envoie la lampe pigeon empruntée pour l'occasion. Il est clair, il est en haut d'un éboulis sur lequel bientôt il rampe, aplati entre les deux parois, le ventre blessé par les pierres, le dos menacé par les stalactites. La progression est lente. Mais comment tient-il la lampe, se demande Jonas. Le conduit s'élargit, devient une salle. Marcel appelle les autres qui s'introduisent à leur tour. Une fois regroupés, ils repèrent l'endroit, le relief fantastique, les gours, les aplats de calcite. Ils se déplacent avec précaution. Les parois se resserrent autour d'eux. Les voici dans une galerie étroite. À ce stade de la descente, ils n'ont rien vu encore, n'ont pas vu les peintures. Et l'idée qu'elle soit dans le noir, vivante, arrêtée, prête à se mettre en branle à la moindre lueur, cette idée-là fait frissonner Jonas. À cet instant, Jacques a poussé un cri et désigné sur la voûte blanche des formes si puissantes qu'elles se sont dissociées des ténèbres et se sont fait reconnaître à la lueur des éclairages de fortune. Ces lumières phaséantes qui ont accru l'impression de mouvement du cortège animal. Ils n'ont pas eu peur et ont levé haut la lampe devant les images. Un cerf, de petits chevaux, un taureau. Puis ils ont escorté la procession le long de la paroi jusqu'à se retrouver au bout du conduit devant un cheval renversé sur le dos, jambes en l'air, comme le signe d'un demi-tour qu'il leur fallait faire. Et justement, la lampe à graisse s'est mise à chauffer, bientôt si bouillante qu'il leur a fallu prendre la décision de ressortir. Et Jonas, devant cette lumière qui brûle et baisse, imagine que les peintures ont limité le temps de regard des quatre garçons. Un temps d'éblouissement après quoi l'obscurité se reforme sur un sillage mnésique, une présence inscrite en soi et le désir de retour qui s'ensuit. Le lendemain, le 13 septembre, ils sont pourtant 5 à remonter sur la colline. Simon est venu avec son frère, accroissant le cercle des possesseurs du secret. Ils ont apporté des lampes à carbure, des pelles, des cordes, sont décidés à procéder à l'exploration systématique des parois. Ils pénètrent à la file dans les trois goulets, se glissent dans le laminoir en pente, et ce n'est plus l'émotion de la veille qui domine, le vertige de la sidération. À présent, c'est l'enchantement. Ils partent en reconnaissance, l'émerveillement leur tient lieu de méthode, et Paula songe qu'ils vont vite, qu'ils se dispersent, s'interpellent, lancés dans une surenchère exclamative qui semble devoir durer toujours. Là, le premier animal, étrange, est un cheval aux deux longues cornes noires et fines qui d'emblée désignent un mouvement, donnent une direction. Là, des taureaux, de petits chevaux noirs, et aussi 4 cerfs au galop, un bouquetin, là un cerf noir, puis un ours au flanc d'un taureau. Des têtes surgies entre 2 encolures, des croupes décalées, des crinières qui se soulèvent. Le tout chaud, mobile, vivant, sonore. La beauté n'a pas de point, la beauté n'a pas de fin, et peu à peu, déjetés hors d'eux-mêmes, ils vont encore accroître l'espace de la caverne. Georges découvre un passage latéral sur la droite dans la première salle et avertit les autres. « Ça continue !» s'introduit dans le couloir qui court sur une quinzaine de mètres avant de déboucher sur une autre galerie haute et si pentue qu'ils doivent grimper sur les corniches pour admirer les peintures. Des chevaux encore, un bison fléché, une grande vache noire et pleine, des bisons adossés, quatre têtes de cerf. Mais peut-être est-ce le même qui se déplace. Ça continue encore. Un autre conduit apparaît sur la droite. L'éclairage oblique révèle un plafond en coupole où s'entremêlent des gravures d'animaux. Un ensemble d'une si grande densité et d'une si grande agitation qu'il en est difficilement déchiffrable. La beauté continue. « Tu es là, Jonas ?» Paula demande. Le troisième jour, ils y retournent. Ils n'ont toujours rien dit. 3 jours qu'ils explorent la caverne, 3 jours qu'ils œuvrent à l'extension du monde connu, à l'extension de l'espace et du temps connu, le grand travail. Une opération de sacs et de cordes, de lampes bricolées et de vêtements déchirés, de risques physiques, une descente qui éclaire sur le champ la jeunesse, la débrouillardise, l'imagination, et tout ce qui consent à tâtonner dans le noir.